Jazz Corner, Serge Mariani. Jam et concerts, actu, rencontres, découvertes, le meilleur de la scène jazz au coin de la rue ou sous le feu des projecteurs.
Aussi profonde que soit une rivière, elle doit avoir un fond, fût-il de sable, comme pour renforcer l'image que nous avons depuis des millénaires du temps qui passe et qui jamais, quoi que nous en pensions jamais, ne se répète. On ne plonge jamais deux fois dans le même fleuve, disait un penseur antique, un certain Héraclite. Alors se pourrait-il que l'on plongeât, oui j'ai tenté le subjonctif à fond dans ce début d'émission, le temps de l'hypothèse par excellence, n'est-ce pas, que l'on plongeât donc dans la même musique 100 ans plus tard ou davantage. Quand Paul Lai s'est lancé dans le projet de l'album Deep Rivers, s'attendait-il à revivre un temps lointain, le temps dont viendrait la musique qu'il allait jouer et les mots qu'Isabelle Serling allait chanter. Allait-il s'en inspirer pour une création originale ou en devenir comme un légataire au plus près du sens que ses premiers interprètes lui donnèrent ? Penser ainsi reviendrait à dénier à l'humain toute la part de subjectivité, et elle peut être grande, qui viendra soutenir et donner un sens nouveau au désir de recréer en interprétant, quelle que soit la forme d'art dont il s'agit, et cela est particulièrement vrai pour la musique, et sans doute encore davantage pour cette musique un peu plus que centenaire à présent et que l'on appelle le jazz. En s'élançant peut-être à corps perdu dans ces rivières profondes et avec celles et ceux qui l'ont accompagné dans ce saut, l'espoir d'y découvrir des merveilles n'a pas dû être déçu. Il ne l'est vraiment pas pour nous, qui pouvons à présent écouter ce qui est un genre de récit de leur aventure, la relation musicale de leur expédition à la rencontre de ces musiques et de ces chants qui sont la matière de l'album Deep Rivers. Bonjour Paul Lai.
Bonjour Serge.
Je suis content parce que ma bonnette a tenu le choc, parce que tout à l'heure, elle s'agitait énormément et ça faisait un bruit monstrueux.
Effectivement, elle est assez originale, on l'aime beaucoup, cette bonnette.
J'ai voulu trouver un nom, parce que je vais faire confiance à Isabelle, parce qu'elle s'en est déjà servie comme boucle d'oreille, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez une idée, Isabelle?
Benjamin Musset, c'est le bon...
BM.
Non, BM.
D'accord, bon très bien, il se reconnaîtra. Alors soyons un tout petit peu plus sérieux, nous sommes ici, pendant qu'il n'y a plus personne pour l'instant, dans la salle du 360 Paris Music Factory, je crois que le nom est complet là, où s'organise pour la première fois le 13e festival Au fil des voix auquel vous participez, Paul Lai en trio avec donc Isabelle Serling à votre droite, qui chantera je crois Isabelle. Exceptionnellement. Et Simon Tailleux à votre gauche qui lui va un petit peu malmener la contrebasse. N'est-ce pas Simon ?
Exactement, oui.
Alors, je dis que là il n'y a plus personne parce que tout à l'heure il y avait un peu de gens qui étaient là pour assister à une sorte de, bon pas masterclass, on ne va pas dire ça, c'était plutôt une présentation, une rencontre de la thématique, de la matière de l'album. Est-ce qu'il y a eu des questions qui vous ont surpris l'un ou l'autre dans la réaction de ce petit public d'une vingtaine, trentaine de personnes qui étaient là ?
pas surpris, mais ils étaient justement curieux de connaître la genèse du projet. Et que je peux un peu développer.
Voilà. Mais absolument, j'allais poser la question, justement. Il est formidable, Paul, il fait le tout.
J'anticipe, je vois loin.
Je vois l'habitude de prompt, il est super prompt.
En fait, ce projet est né il y a à peu près 2 ans, en 2018, au Théâtre Gralet à Nantes, où on célébrait le centenaire de l'arrivée du jazz en France, avec le débarquement des Américains, et notamment de l'orchestre de James Reese Europe. Donc Mathieu Jouan, l'organisateur de cet événement il y a 2 ans, nous a demandé, m'a proposé voilà, une création autour de ce thème-là. Je me suis emparé avec joie et avec aussi pas mal d'appréhension et de curiosité. J'ai toujours, en tant que musicien de jazz, j'ai toujours adoré revenir à la source. Enfin, peu importe ce qu'on est, en général ce qu'on étudie, c'est toujours bien d'aller voir d'où ça part, quoi. Donc là, c'était un moyen très intéressant et surtout un
très concret, quoi. Une belle occasion.
Ouais, c'est ça, une opportunité très concrète de réaliser ça. Et je suis allé chercher des chansons qui étaient très populaires à l'époque. Donc entre la guerre de sécession et la Première Guerre mondiale, que tous les soldats connaissaient, que tous les Américains chantonnaient, fredonnaient, puis aussi des chansons avec une portée plus politique, un message notamment pour l'émancipation des Noirs, où il y a des chansons codées comme « Follow the Drinking Gourd » que l'on joue, qui veut dire « Suis la gourde à boire », mais en fait c'est la grande ours. Et en fait c'était le point de repère qu'avaient les Noirs du Sud pour fuir l'oppresseur blanc. Et voilà, l'idée c'était de mélanger des chansons d'esthétique, mais surtout de sentiments et d'émotions différentes. Et qu'on met en lumière avec des chansons de Nina Simone 100 ans après, qui elle aussi s'est battue toute sa vie pour l'émancipation de la cause des Noirs et des minorités.
Oui, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait 2 centenaires, en quelque sorte, qui se croisent, qui s'assemblent. C'est-à-dire, il y a 1860, hein, à peu près, les années 60, justement, Nina Simone, etc. Là, et 1860, donc la guerre de sécession, principalement, et le centenaire du jazz, en gros, de 1917-1918, jusqu'à tout récemment. C'est ça, un peu. Et avec ces deux périodes-là, un petit peu comme une espèce de tectonique, là, de l'histoire de la musique, vous êtes dit on est là un peu entre les deux, là, on va faire quelque chose avec ça, c'est ça ?
Ça qui est passionnant, c'est qu'on il y a d'une part les origines du jazz, donc le blues, le folk, le gospel, le ragtime, la musique classique évidemment aussi, qui se mélange à toutes ces autres formes populaires, et le jazz naissant aux États-Unis. Donc on va puiser dans une musique d'avant le jazz. Et puis évidemment, ça se cristallise en 1917, c'est les origines du jazz aussi, aux États-Unis. Et donc il y a des résonances, bien sûr, 60 ans, 100 ans après. Et comment on s'en empare, nous, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant.
Alors, par exemple, toute cette culture de chansons, parce que c'est quand même principalement des chants, Isabelle Serling, qui est la voix de ce trio, comment est-ce qu'il y a eu des découvertes, est-ce qu'il y a eu forcément une satisfaction de dire je vais pouvoir chanter ça et comme ci comme ça avec Paul et Simon, comment est-ce que Isabelle Serling a abordé, a embrassé tout ça, parce que c'est en même temps c'est un projet énorme, quoi.
Oui, mais tout le folk et gospel spirituel, c'est une musique que j'ai beaucoup chantée et écoutée quand j'ai grandi. Mm-hmm. Et puis pendant 15 ans, 10 ans, j'ai fait plutôt jazz moderne, expérimental, improvisation. Donc quand ce projet était né, c'était
back to the roots,
mais c'était vraiment ça, de revenir à une source que j'ai un peu...
Tu avais laissé de côté un peu.
Oui. Oui, c'est ça.
Et c'était un plaisir.
C'est un grand plaisir. Et aussi, toutes les paroles dans ces morceaux qui parlent souvent des soldats qui sont loin de son famille, son territoire.
Son amour.
Son amour, oui. Et qui a une profondeur... énorme. C'est aussi touchant parce que c'était aux mêmes périodes que j'ai quitté Suède. Donc j'avais une sorte de lien personnel avec toute cette émotion de quitter ton pays, d'être loin de ta famille et tout.
Là, je vais revenir un petit peu à Paul, qui, par exemple, lui, s'est intéressé aussi à Billie Holiday. Est-ce qu'on a quelque chose de Billie Holiday dans cette inspiration du Deep Rivers ou pas vraiment? Bon, on a parlé d'Ina Simone, certes, et on peut dire qu'il n'y a pas 36 grandes voix du jazz en particulier et de l'histoire afro-américaine par la musique et le jazz que, en effet, Billie, Nina Simone.
Non, évidemment, elle est toujours dans ma tête, mais après, effectivement, pour ce projet-là, on ne joue pas spécifiquement des chansons qu'elle aurait chantées. Et c'est vrai, c'est plutôt l'icône de Nina Simone qui nous vient à l'esprit, surtout qu'on la célèbre à notre manière. Mais j'ai appris le jazz quand j'ai commencé à l'étudier sérieusement vers 15 ans. J'ai pas mal appris de standards en écoutant Billie Holiday. Et c'était vraiment... une voix qui m'a profondément ému dès mes années d'adolescence. Et donc elle est quelque part toujours dans un coin de mon cœur et de mes oreilles. Et effectivement, je lui ai dédié un projet par ailleurs avec un ami vidéaste, Olivier Garouste, qu'on a célébré de manière un peu singulière. Et donc oui, Billie est quelque part aussi.
Mais donc, pour revenir à ce que disait Isabelle, il y a ce côté roots que Simon a évoqué aussi, c'est-à-dire folk. Et donc là, on remonte avant quand même le jazz, même s'il y a le blues, bien sûr, est très important aussi. Et justement, ce qui est intéressant dans les titres que moi j'ai pu écouter, et dont je me souviens qu'ils m'ont marqué, c'est ce côté aussi, il y a des moments où on passe un peu du folk au blues de façon, comme si déjà on avait une sorte d'évolution historique. Je ne sais pas comment Isabelle a ressenti ça, c'est-à-dire à la fois exprimer quelque chose de très... très radical du folklore, des chansons qu'on peut se répéter en famille, quoi. Et puis d'avoir un blues un peu plus évolué, peut-être. Enfin bon, c'est pas très précis ce que je dis, c'est peut-être pas le vocabulaire qu'il faudrait, mais est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Notamment dans un des titres, je crois que c'est Rebel Soldier, je sais plus, ou même peut-être Deep Rivers, où il y a comme ça un départ un peu folklorique, je veux dire. Et puis on glisse vraiment dans un vrai blues, quoi, d'un coup. Hein?
Ouais. Ouais, mais Rebel Soldier, c'est un des morceaux qui est le plus blues, je crois, qui a vraiment cette...
En fait, on navigue beaucoup. Enfin, pour nous, c'est un son. Ouais. Et la musique, la folk de l'époque, c'était donc la musique populaire. Et donc, elle se nourrissait de blues. Et c'était le blues aussi. Donc on ne fait pas de distinction, je pense, quand on joue entre ces différentes étiquettes. C'est juste que... Il y a une histoire, il y a une couleur, il y a un son, les sons se mêlent comme ça selon nos inspirations. Mais effectivement, c'est enraciné vers quelque chose de très précis, qui est le blues de l'époque.
Et justement, particulièrement dans Rebel Soldier, il y a des moments où le piano et la contrebasse ont un jeu comme ça, une espèce de réponse comme ça, l'un à l'autre, qui a été et le, enfin moi j'ai noté, pour moi ça m'a beaucoup impressionné la façon dont Simon la contrebasse presque fait un effet choral aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'assez incroyable de quand on écoute ce morceau une première fois, puis une deuxième fois, et puis on se dit c'est complètement. Il y a des moments où on est sur une, on s'y retrouve. Je vais oser l'expression. Et puis tout d'un coup, on a l'impression de partir comme ça, de prendre un petit chemin de traverse et d'aller ailleurs, quoi.
C'est un souhait qu'on a eu dès le début, quand Paul nous a amené ses morceaux, donc qu'il était allé farfouiller de son côté. Il nous a amené la mélodie, le style originel, et puis après c'est à notre façon aussi de comment les jouer aujourd'hui avec nos personnalités, nos musicalités propres à chacun. Et on donnait chacun, enfin Paul avait ses idées plus ou moins précises, et puis chacun en arrivait avec aussi les nôtres, et on essayait de faire avancer la musique pour se renouveler aussi, et pas juste jouer un blues comme un blues joué il y a 100 ans, ou une folk song comme il y a 100 ans aussi.
Parce que évidemment, notre acte dans le trio, il n'y a pas de batterie.
Pas dans celui-là.
Voilà, dans celui-ci, bien sûr, je parle du trio de Deep Rivers.
C'est bien aussi. Et...
Non, c'est bien, comme ça, le rythme, on le crée différemment.
Absolument, et c'est ça que je voulais un peu en venir là, c'est-à-dire que aussi, pardon, un peu, je mélange un peu les choses, mais pour revenir aussi au chant, c'est-à-dire que Nina Simone, qui est quand même très importante en effet, dans une des majeures sources d'inspiration pour cet album, Nina, elle chantait et s'accompagner au piano en même temps.
L'une des plus grandes pianistes.
Ouais. En plus, c'était une grande... Voilà. Et donc là, vous avez un peu... comment dire, ouvert, une espèce de dissection, j'oserais dire. Et comment on approche ça? On se dit, tiens, on va s'inspirer de Nina Simone, et Nina Simone, elle y va, quoi. Elle envoie à la fois au piano et puis à la voix, n'est-ce pas, Isabelle? Donc, Paul et Isabelle, comment vous êtes un peu... Vous vous êtes partagé l'inspiration et le jeu de Nina Simone? Qui veut parler là-dessus?
Moi, je peux déjà dire que... En tant que pianiste, je ne parle pas en tant que chanteur parce qu'évidemment je ne chante pas, et je suis très mauvais chanteur, mais en tant que pianiste, je peux témoigner que reprendre Nina Simone, je le fais vraiment avec beaucoup d'humilité parce que c'est exceptionnel ce qu'elle fait, la profondeur de chaque note qu'elle joue, chaque accord qu'elle joue, c'est avec une telle conviction que je l'ai beaucoup, enfin évidemment j'ai beaucoup écouté tout court, je l'ai beaucoup écouté, j'ai écouté plus précisément les morceaux que l'on rejoue à notre manière. Et j'essaie vraiment de m'inspirer de son souffle, de son style. Mais après j'essaie de trouver ma patte là-dedans.
Alors maintenant, le plus vocal, Isabelle, Nina Simone quand même.
non mais je crois qu'il y a 2 ans qu'on a fait un concert tribute de Nina Simone. Et c'était là pour la première fois que j'ai fait une...
Tous les trois déjà,
oui,
d'accord.
Oui, tous à les Paris, trois. Ouais. Qui j'ai vraiment fait une grande recherche de Nina Simone. Et j'ai compris qu'elle était politique. Engagée. Comme elle était...
Et vous n'avez pas la même voix.
Non, non mais comme elle est très politicale. Mmh. Et ces paroles parlent le sujet de
discrimination,
discrimination
et émancipation.
Mais c'est aussi dur de est-ce que j'ai le droit de chanter cette parole tant que
ah oui d'accord cherché. Tu sais poser le problème carrément comme ça,
oui, et donc leur entrée que j'ai trouvée, c'était justement quand elle a parlé de quitter son pays.
Oui, à cause des problèmes de la communauté afro-américaine, bien sûr. Oui.
Alors, quand j'ai trouvé ce lien émotionnel, je pouvais aussi chanter ça.
Oui, parce que ça veut dire qu'il faut trouver un lien des sentiments, c'est ça en fait, de l'émotion. Par rapport au fait d'avoir quitté la Suède, c'est ça?
Oui.
Paul, il connaît parfaitement le sentiment d'Isabelle.
On a beaucoup discuté et on commence à comprendre comment on fonctionne. Si je comprends bien, c'est que tu vas évidemment puiser dans ta propre histoire, ton histoire personnelle, et trouver des liens avec le thème des paroles. Et c'est ce qui va nourrir tes interprétations.
Bah oui, c'est ça, Isabelle.
Oui, c'est ça.
Bah voilà. Mais c'est naturel. Enfin, d'ailleurs, les musiciens, enfin, et surtout les vocalistes, on va dire, les chanteurs, les chanteuses, je pense que c'est très important parce que là, on s'exprime, je sais pas, vous n'allez pas me contredire, hein, Paul et Simon, peut-être encore plus qu'avec un instrument. C'est la voix, c'est son corps, quoi.
C'est plus direct, c'est sûr.
Ouais. Oui.
Pour terminer cette interview donc, sur l'album Deep Rivers et le concert de ce soir ici au 360 pour le festival Au fil des voix, Paul, et je vous dis ça à tous, j'ai été très impressionné moi il y a quelques mois par une exposition au Jeu de Paume à Paris qui était des photos d'une photographe américaine qui s'appelle Sally Mann et qui avait notamment fait des photographies sur les sites de la guerre de sécession. Elle avait fait des photos en plus avec un procédé ancien, avec des temps de pose très longs et un appareil aussi un peu archéologique, j'oserais dire. Et ce qui était hyper impressionnant, bon bien sûr c'était expliqué, mais même si on n'avait pas l'explication, on avait l'impression d'y être, c'est-à-dire de tout d'un coup, comme si, quand on se retrouve dans une forêt ou dans une clairière, je sais pas, et puis tout d'un coup, on a le sentiment qu'on est à la fois dans un espace et dans un temps. Et il y avait aussi, elle avait réussi, je ne sais plus comment, à faire en sorte qu'avec la lumière, je ne sais plus comment, c'était un truc dingue, on avait l'impression qu'il y avait le tracé des balles. Et en même temps, elle disait ici, c'est-à-dire à cet endroit où la photo a été prise, il y avait eu, je ne sais pas, 35 000 morts, par exemple, des trucs un peu comme la guerre de 14 aussi, ou les sites en France. Et franchement, c'est hyper impressionnant. Et je pense que quand on reprend une musique, enfin voilà, de ce que vous avez fait, est-ce que en la jouant, en la reprenant, en l'interprétant, il y a un moment où vous ressentez des choses comme ça ? Qui veut, Paul ?
Bien sûr, moi, il y a certains morceaux qui sont très poignants à jouer, notamment un dont on peut parler, qui est c'est une musique que j'écris sur un poème d'un jeune officier britannique s'appelait Charles Hamilton Sirley. Il avait écrit un poème dans la guerre des tranchées. Le poème s'appelait To Germany, donc un poème dédié aux Allemands, parce qu'il était allé étudier la littérature allemande quelques années avant le conflit. Donc quand la guerre éclate, il se retrouve aux côtés évidemment des Anglais, ils se battent contre cette même nation. Et donc cette situation inextricable est évidemment plus que douloureuse pour lui, et donc il écrit ce poème pour les Allemands, une ode à la paix merveilleuse qu'on a mis en musique, et il meurt sous les balles quelques jours après, il avait 20 ans. Et donc c'est qu'à chaque fois qu'on le joue, ça, bon évidemment, pour moi c'est important d'expliquer au public juste avant qu'on le joue le contexte. Et c'est que quand on joue ce morceau-là, j'y pense profondément, enfin vraiment. Et donc il y a une forme de solennité, de quelque chose de forcément de dur. Et certains autres morceaux aussi, on y pense, mais en tout cas ce morceau particulièrement nous plonge dans un état spécial. Et voilà.
Simon,
on a tous des images, comme tu parlais de cette expo photo, des images de la guerre de 14 ou la guerre de sécession américaine, de tous ces noirs pendus aux arbres. Et tout ça, ça reste en tête gravée toute une vie. Et c'est vrai que quand on joue ce genre de musique-là, on pense à ça, évidemment, ouais, évidemment.
Et Isabelle aussi, bien entendu.
Oui, ça se sent que cette musique, cette parole...
C'est incarné quoi, complètement. Dire c'est la chair, l'émotion qui parle, qui est là quoi. D'avant tout, on n'est pas là juste pour chanter bien, non. Mais voilà.
Non, c'est surtout plus on s'immerge dans ce contexte, plus on les incarne ces chansons, plus elles vont chanter d'elles-mêmes. Et surtout, ça, on s'oublie un peu nous-mêmes. C'est ça qui est bien, c'est qu'on oublie qu'on est sur scène et qu'on fait notre spectacle. Bien sûr, on est musicien, on fait notre concert, mais c'est. Et plus on va rentrer dans la matière musicale, plus on va rentrer dans la chanson, plus on va essayer de lui donner une nouvelle lumière, plus a priori la musique sera forte et plus les gens ressentiront quelque chose.
Et ben c'est certainement ce qui va se passer pendant le concert ce soir, deux fois d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait venir, et ben ils ont raison. Et puis sinon il y a l'album qui sort aujourd'hui, qui est là, Deep Rivers, donc on peut se procurer chez Laborie, c'est ça non?
Exactement.
Voilà. Donc j'encourage tout le monde comme d'habitude. À écouter la musique forcément, et si possible en concert, parce que c'est encore mieux, mais à acheter le disque aussi. Voilà, merci, et puis très bon concert à vous trois.
Merci, merci Serge, merci.
Merci. Merci beaucoup.
C'était Jazz Corner avec Serge Mariani. Une chronique à retrouver le lundi et jeudi à 13h et 18h sur Art District.